VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous, bienvenue à ces nouvelles de 16h, temps universel. Le général Khalifa Haftar a été nommé à la tête de l'armée libyenne, annonce faite aujourd'hui par le président du Parlement, reconnu par la communauté internationale, Aguila Salah Issa, à l'agence France-Presse. Le porte-parole du chef d'état-major, le colonel Ahmed Al-Mesmari, a lui indiqué de son côté que le général Haftar devrait prêter serment demain mardi devant les parlementaires, précisant que le militaire se trouvait déjà à Tobrouk, dans l'est du pays où siège le Parlement. Demain mardi, et du moins mardi dernier, le Parlement avait décidé d'instaurer un poste de chef général de l'armée créé sur mesure pour le général Haftar, dont les forces combattent, vous le savez, depuis plusieurs mois, les groupes islamistes dans l'est de la Libye. Les islamistes de Boko Haram ont pris d'assaut hier soir une île située dans les eaux nigériennes du lac Tchad. La nouvelle a été donnée par un député des humanitaires. Une radio privée nigérienne a fait état de deux morts et de l'incendie du village se trouvant sur cette île. Mais un rescapé de l'assaut, interrogé par l'AFP, redoute de plus lourdes pertes humaines. L'assaut a été mené hier vers 19h heure locale, a raconté le rescapé qui l'impute du reste à Boko Haram. Deux sources humanitaires, selon l'AFP, ont confirmé l'assaut, mais n'ont pu donner davantage de précisions. Le président algérien se dit contraint de renoncer à certaines de ses promesses de campagne en raison de la crise du pétrole. Abdelaziz Bouteflika vient d'instaurer un régime d'austérité économique près d'un an après sa réélection pour un quatrième quinquennat. Morgan Guiriek.
Les recrutements dans la fonction publique ont été gelés. Un contrôle rigoureux a été imposé au commerce extérieur, la facture d'importation ayant triplé en 10 ans, et les projets jugés non urgents ont été reportés. Durant la campagne présidentielle, M. Bouteflika avait promis de maintenir les aides sociales et les financements publics accordés aux jeunes, suscitant l'indignation sur les réseaux sociaux. M. Bouteflika s'est notamment servi de la rente pétrolière pour acheter la paix sociale et mettre son pays à l'abri des vents du printemps arabe en 2011. Mais les cours du pétrole ont perdu la moitié de leur valeur en 6 mois et le gouvernement a dû adopter un premier train de mesures d'austérité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Égypte, 11 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe près de la Cour suprême en plein cœur du Caire. Selon des sources médicales, l'une des blessées est grièvement atteinte. Selon l'AFP, un responsable de la sécurité de l'agence de presse officielle MENA avait auparavant rapporté la mort du blessé grave. Avant de revoir ce bilan, des responsables de l'hôpital où est soigné ce patient ont indiqué qu'il se trouvait en soins intensifs et souffrait d'une blessure cérébrale très grave. Pour la première fois depuis 2011, le prix Mo Ibrahim, le plus richement doté au monde, a été décerné. Il n'avait pas trouvé de lauréat pendant 2 ans. Le point avec Camille Gros-Didier.
Le président namibien sortant Hifikepunye Pohamba a vu lundi son œuvre saluée par le prix Mo Ibrahim 2014 de la bonne gouvernance en Afrique. Un prix qui récompense son leadership, la Namibie ayant connu la stabilité politique depuis son élection en 2005, qui avait été suivie d'un second mandat en 2009. Le comité a été marqué par la détermination du président Pohamba à conforter en priorité la cohésion et la réconciliation nationale au moment où la Namibie abordait une phase décisive pour la consolidation de la démocratie et du développement social et économique, a déclaré Salim Ahmed Salim, président du comité d'attribution du prix qui est cité par l'agence France-Presse. Le lauréat, qui a été annoncé à Nairobi au Kenya, se voit attribuer 5 millions de dollars sur 10 ans, puis 200 000 dollars par an après cela. Conformément à la Constitution, M. Pohamba ne pouvait pas briguer de troisième mandat et son successeur, l'ex-premier ministre Hage Geingob, assumera ses fonctions d'ici à la fin du mois.
Au Burundi, évasion de l'ancien président du parti au pouvoir, Hussein Rajabu, de la prison de Npimba à Bujumbura. Un mauvais coup pour le président Pierre Nkurunziza. Malgré son emprisonnement, son ex-compagnon de route est resté populaire auprès d'une partie des militants du CNDD-FDD. Les explications, Salwa Jafari.
L'ancien numéro 1 du parti au pouvoir au Burundi est en cavale depuis hier soir, écourtant ainsi une peine de 13 ans pour complot contre la sûreté de l'État. Selon la police, Hossein Radjabo avait 3 complices, 3 gardiens de prison, dont le brigadier chef de corps. La nouvelle de l'évasion vient perturber la campagne électorale du président Nkurunziza, lui qui était disciple de Radjabo avant qu'il prenne les rênes du parti CNDD-FDD, avant qu'il commence à lui faire de l'ombre. En réclusion, le prisonnier était resté populaire auprès de plusieurs militants du parti. À 4 mois des présidentielles, cette évasion n'aurait pas pu tomber plus mal pour le camp de l'actuel président.
Il est 17h05 à Bujumbura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Rencontre Lavrov-Kerry ce lundi à Genève. Le secrétaire d'État américain s'est déclaré plein d'espoir que ces discussions à Genève avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, vont déboucher sur un changement en Ukraine. Nicolas Pineau.
À l'issue d'un entretien de 80 minutes avec son homologue russe, le chef de la diplomatie américaine a dit espérer que suite à cette rencontre, cela sera la route pour plus de désescalade et non pour plus de déception, selon M. Kerry. Cette rencontre intervient alors que sur le terrain, une certaine accalmie s'observe entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Si les violations du cessez-le-feu sont de moins en moins fréquentes, il est trop tôt pour savoir si nous sommes au bout de nos peines, a déclaré un responsable américain accompagnant M. Kerry. C'est dans ce contexte que les Nations Unies annoncent que la guerre dans l'est de l'Ukraine a déjà fait plus de 6000 morts depuis le début des violences, c'était en avril dernier. Le commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a annoncé des destructions impitoyables concernant les civils et les infrastructures.
En Irak, une offensive d'envergure contre l'État islamique, quelques 30 000 membres des forces pro-gouvernementales irakiennes mènent l'attaque pour reprendre Tikrit au nord de Bagdad, un bastion du groupe terroriste. Michel Joseph.
C'est sans doute l'opération la plus audacieuse entreprise par Bagdad contre Daesh. Annoncée la veille par le premier ministre irakien, lancée très tôt ce matin, l'armée soutenue par des milliers de combattants de la milice chiite s'est lancé à l'assaut de Tikrit, avançant depuis 3 directions. Les forces aériennes ont-elles d'ores et déjà commencé à bombarder la ville. Selon un colonel de l'armée contacté par l'AFP, les forces pro-gouvernementales évoluent également sur les routes secondaires afin d'empêcher la fuite des djihadistes qui contrôlent la ville de Tikrit depuis 9 mois. L'EI s'était emparé de l'ancienne ville natale de Saddam Hussein en juin dernier, suite à une percée fulgurante dans le nord et l'ouest du pays. À la veille de l'offensive, le premier ministre Haider al-Abadi s'était adressé aux combattants sunnis pour leur demander de se retourner contre les djihadistes. Il leur a offert une dernière chance, leur promettant le pardon.
Et le secrétaire d'État américain John Kerry a défendu Israël devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aujourd'hui même, affirmant qu'il y avait une focalisation disproportionnée sur l'État hébreu. Son plaidoyer intervient au moment où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington et s'apprête à s'adresser au Congrès américain demain mardi. Dans un discours devant le Conseil à Genève, le chef de la diplomatie américaine a évoqué le passé profondément préoccupant de l'institution onusienne à l'égard d'Israël et estimé que cette attitude s'apprête l'efficacité de l'organisation dans son ensemble. Et du sport pour terminer, la CAN des cadets se poursuit au Niger. Hier, l'Afrique du Sud a validé son ticket pour les demi-finales après une éclatante victoire 3-1 devant le Cameroun, déjà éliminé. Les Sud-Africains rejoignent ainsi le Mali qui a pris le meilleur 1-0 sur la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, avec 3 défaites, rentre à la maison au prix d'une énorme déception. Les Sud-Africains croiseront la route des Nigériens tandis que Maliens et Guinéens découdront pour la deuxième place de finaliste. Les 4 en accédant aux demi-finales ont assuré leur place de représentant africain à la Coupe du Monde qui va se dérouler du 17 octobre au 8 novembre au Chili en s'imposant 2-1 devant la Guinée au terme d'un match plein où les protégés de Francisco Castano Benito ont tout donné pour faire honneur à leur public. Le Niger, pays hôte de la compétition, quitte le tournoi sur une note plutôt positive. Les Guinéens qui, malgré leur défaite, sont qualifiés pour les demi-finales ont été ballottés tout au long de ce match. Vous suivez VO Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous dans moins d'une heure pour un nouveau journal sur votre radio préférée. Restez en notre compagnie. Jean-Roger Billon à ce micro. Au revoir et à tout à l'heure.
cœur de l'info sur VOA.